Ici Véronique Bellemare-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, le scandale du Door Monkey, quoi en penser? Aujourd'hui, je réponds au SOS de Sophie qui nous dit « Mon enfant ne cesse de se lever la nuit, je ne suis plus capable » et j'ai entendu parler du dispositif Door Monkey cette semaine. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Bon. Pour situer tout le monde, cette semaine, il y a eu comme un mini-scandale au Québec parce que Angela Price, qui est la femme de Carey Price, qui est un joueur de hockey bien connu, a répondu à ses abonnés qui lui posaient la question « Comment tu fais pour que tes enfants n'aillent pas vous déranger durant la nuit, vous rejoindre dans votre lit? » Et elle a répondu à ça « J'utilise tout simplement le dispositif Door Monkey. » Qu'est-ce que c'est ce dispositif-là? C'est un dispositif, en fait, qui va servir à retenir la porte. Donc, lorsque l'enfant essaie d'ouvrir la porte, il a une petite embrasure, donc un petit espace pour pouvoir voir à l'extérieur, mais qui est vraiment tout petit, par lequel il ne peut pas passer. Alors, il peut simplement voir un petit peu à l'extérieur, il peut peut-être appeler ses parents, mais il ne peut pas sortir de la chambre. Alors, il est en quelque sorte embarré dans sa chambre et il est tenu d'y rester parce que les parents, s'ils ne souhaitent pas se lever pour aller le chercher durant la nuit, lui, il n'est pas capable de sortir. Donc, Sophie, j'imagine que si vous posez la question cette semaine, c'est parce que vous avez été au courant de tout ce scandale-là qui a impliqué Angela Price, mais aussi Bianca Lompré, qui, elle, a répondu que c'était épouvantable, que c'était de la maltraitance, qu'on n'avait pas un enfant pour s'en occuper que durant le jour, qu'on était parents 24 heures sur 24. Et là, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Donc, du côté de l'Institut Somna, il faut comprendre que nous, on travaille toujours avec une approche qui va d'abord répondre aux besoins de l'enfant et non pas d'abord aux besoins des parents. Pourquoi? Parce que on croit fermement que, bon, l'enfant est là, il est plus petit que nous, effectivement, c'est nous qui avons décidé d'avoir un enfant, alors il faut quand même l'accompagner pour répondre à ses besoins, pour le sécuriser, tout ça, pour l'aider aussi à développer sa maturation affective normale et pour avoir un bon lien de confiance avec son parent. Il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'on est fondamentalement persuadé que lorsqu'on répond bien aux besoins d'un enfant, il va s'apaiser tout naturellement et il va être en mesure ainsi de se laisser aller au sommeil et de ce fait, il va être en mesure aussi de favoriser le sommeil du reste de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? C'est que le Door Monkey, c'est avant tout un outil qui vise à répondre aux besoins de qui? Eh bien, vous l'aurez deviné, ça vise à répondre d'abord aux besoins des parents qui ne veulent pas se faire déranger durant la nuit. Et c'est un besoin tout à fait normal, on est tous passés par là, effectivement, on a du mal à tenir si notre enfant se lève plusieurs fois par nuit, qu'on se fait toujours réveiller. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie à appliquer pour répondre à ce besoin du parent? Et à celui de l'enfant, évidemment, non, parce que là, on ignore complètement le besoin de l'enfant et même on lui crée une anxiété supplémentaire face au sommeil. Alors, vous comprendrez que, Bianca Lompré a réagi très fortement cette semaine et elle peut se le permettre tout à fait. J'avouerai que de notre côté, on a un peu la même opinion, mais on nuancerait un petit peu parce qu'il y a des situations peut-être extrêmes où dans certains cas, ça devient une solution de sécurité. Par exemple, lorsqu'il y a des enfants qui vont souffrir d'épisodes de somnambulisme qui peuvent mettre à risque leur sécurité, eh bien, peut-être que dans ces cas-là, on pourrait utiliser le fameux Door Monkey, mais encore là, on ne sait pas comment l'enfant réagirait durant un épisode de somnambulisme s'il se trouvait coincé dans sa chambre. Donc, c'est pour ça que là, il y a des gros bémols à faire à ce niveau-là, mais ce serait vraiment vraiment du cas par cas, parce que dans ce cas-là, ce serait une façon de préserver la sécurité de l'enfant, finalement, qui n'a pas conscience qu'il sort de sa chambre durant la nuit et qui pourrait être à risque de se blesser ou même de défoncer une fenêtre ou quoi que ce soit. Donc, parfois, oui, dans des cas comme ceux-là, il peut y avoir des médecins ou des spécialistes qui vont recommander vraiment de trouver une façon de contenir l'enfant dans sa chambre. Mais là, c'est pas de ça dont on parle vraiment d'enfants qui se relèvent. Et là, pourquoi ils se relèvent? Évidemment, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire qu'ils se relèvent. Nous, de notre côté, à l'Institut Somnant, on parle généralement de trois raisons fondamentales qui font qu'un enfant n'est pas capable de se laisser aller au sommeil, ou en tout cas de trois points fondamentaux à explorer avant tout. Et on parle toujours de la sécurité, du confort et du réconfort. Donc, si un enfant se relève, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas et il a besoin de son parent pour l'aider à régler justement ce qui ne va pas de son côté. Donc, est-ce que c'est un besoin au niveau de la sécurité? Est-ce qu'il ne se sent pas en sécurité dans son espace de sommeil et il a besoin de se relever parce qu'il a peur, parce qu'il imagine toutes sortes de fantômes autour de lui? Est-ce que finalement, il est aussi inquiet parce qu'il se retrouve seul? Donc, est-ce que c'est un besoin qui est lié à l'anxiété de séparation? Est-ce que, au contraire, par exemple, justement, si on parle de sécurité, est-ce que c'est parce que des parents commencent à utiliser ce dispositif-là que l'enfant sent qu'il est en quelque sorte emprisonné dans sa chambre et qu'il n'est plus capable du tout d'en sortir? Donc, évidemment, ça augmente la détresse. On imagine nous-mêmes comme parents, si quelqu'un nous embarrait dans notre chambre durant la nuit, on n'aurait pas trop envie d'y aller. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur. Alors évidemment, de notre côté, ce n'est pas un dispositif qu'on n'a jamais recommandé et qu'on ne recommandera jamais. Je faisais simplement le petit bémol parce qu'il peut y avoir des situations de somnambulisme extrême dans lesquelles certains spécialistes du somnambulisme peuvent peut-être en venir à recommander des dispositifs comme celui-là. Mais évidemment, là, ce serait vraiment dans des cas vraiment particuliers. Ceci étant dit, de notre côté, ce n'est pas du tout une bonne façon d'augmenter non plus son sentiment de sécurité, évidemment, parce que c'est très, très angoissant de se faire embarrer pendant que l'on dort, parce qu'on sait qu'on peut avoir des besoins en cours de nuit, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant. Donc, si on est adulte, par exemple, et qu'on a un cauchemar durant la nuit, on le sait qu'on va avoir besoin de sortir de la pièce puis d'y revenir avec un esprit plus reposé. Donc, à cet âge-là, quand on a des tout-petits, en bas de 5 ans, eh bien, généralement, ben, ils vont avoir aussi une période où ils vont entrer dans ce qu'on appelle le symbolisme et ils vont se mettre aussi à imaginer toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Plus l'enfant vieillit, plus cette peur-là peut grandir. Et donc, il va avoir besoin de son papa ou sa maman pour le soutenir à ce moment-là. Alors, effectivement, c'est quand même quelque chose à considérer parce que en termes de sécurité, si on revient à la sécurité, si on nous embarre dans notre chambre et qu'il y a un incendie qui se déclare dans la maison, bien évidemment, ce n'est pas sécuritaire du tout de manière basique. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va favoriser son apprentissage du sommeil et qui va lui faire aimer le sommeil. Alors, on peut se poser la question comme parents, si à partir de maintenant, on nous embarre dans notre chambre à chaque nuit, est-ce qu'on va avoir hâte d'aller dormir? Est-ce qu'on va être content d'aller se coucher? Forcément, pas vraiment. Hein? C'est comme si on nous mettait en prison la nuit. En fait, c'est sûr que l'enfant, lorsqu'il se lève durant la nuit, il faudrait comprendre pourquoi il se lève durant la nuit. Est-ce qu'il se lève, justement, si on revient aux besoins de sécurité, de confort, de réconfort, est-ce qu'il se lève parce qu'il ne se sent pas en sécurité, parce qu'il a besoin d'être plus confortable, donc il vit des inconforts, que ce soit des inconforts physiques, des inconforts physiologiques. Il peut avoir mal au ventre, il peut avoir des reflux, il peut avoir aussi simplement mal dans sa position de sommeil puis ne pas être confortable. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas fatigué, puis on ne l'a pas couché au bon moment? Alors, il n'est pas assez fatigué pour se laisser aller au sommeil, ou alors parce qu'il n'a pas eu les signaux de somnolence qui se manifestent avec le train du sommeil. Donc, c'est plus généralement ça. Un enfant qui n'est pas fatigué la nuit, ça n'existe pas vraiment habituellement. Mais par contre, un enfant qui n'arrive pas à monter dans le train du sommeil au bon moment parce qu'il n'a pas ressenti les signes de somnolence au moment où on est allé le coucher, ça, c'est très fréquent. Donc, peut-être que la synchronisation du parent avec le rythme de l'enfant n'est pas bonne également. Peut-être que le parent l'a couché trop tôt ou trop tard ou peu importe. Ça, c'est quelque chose à voir avec l'horloge biologique individuelle. L'autre chose que l'on doit considérer, c'est que, bon, il y a le besoin de sécurité, de confort, mais il y a aussi le besoin de réconfort. Est-ce que l'enfant a, comme on le disait tout à l'heure, des peurs dans son environnement? Est-ce qu'il vit une anxiété de séparation avec son parent? Est-ce qu'il sent qu'il n'a pas assez de temps de qualité avec son parent? Donc, on parlait souvent du réservoir d'énergie qui doit être dépensé pour réussir à bien dormir la nuit, mais aussi du réservoir d'affection qui, lui, doit être bien rempli pour pouvoir se séparer de ses parents le soir venu. Aussi, si on regarde les autres aspects, on parle du réconfort. Est-ce que l'enfant a besoin d'aller retrouver ses parents parce qu'il vient de vivre un cauchemar, par exemple? Et là, évidemment, si on est en plein cauchemar et que on est embarré littéralement dans notre chambre, ça risque d'être encore plus traumatisant et de mal se terminer. Alors, effectivement, si l'enfant a besoin d'aller voir ses parents parce qu'il vit un cauchemar, bien, il faut que le parent puisse quand même le rassurer, être disponible pour lui. Alors, malheureusement, quand on essaie de régler les problèmes des parents avant ceux de l'enfant, bien, on crée d'autres problèmes avec les enfants. C'est-à-dire que comme on n'a pas répondu à leurs besoins, bien, ils sont encore plus anxieux et ils vont encore plus avoir du mal à faire confiance à leurs parents. Donc, la sécurité affective va être compromise également. Et forcément, si, à moins que ce soit un enfant là, qui a des crises quelconques ou bon, il y a des situations, c'est pour ça que j'ai fait le bémol tout à l'heure, parce qu'il y a des situations où des spécialistes vont recommander cette contention-là. Mais il faut quand même penser de façon générale que ce n'est pas une bonne idée, de façon générale. Alors, c'est toujours dans des cas vraiment exceptionnels. Alors, d'une part, est-ce qu'il a peur? Si oui, bien, il va falloir justement l'aider à apprivoiser cette peur-là. Il va falloir l'accompagner là-dedans. Alors là-dessus, ce que mentionnait Bianca Lompré, disant qu'effectivement, on est parents 24 heures sur 24 et pas juste quand ça nous convient, c'est tout à fait vrai. Bien sûr, on va essayer de minimiser le plus possible ces interactions-là durant la nuit, mais pour qu'elles en viennent à disparaître, ben, il faut que l'enfant retrouve cette confiance-là, qu'il se sente en sécurité, qu'il soit bien dans son espace, et on a notre rôle de parent, d'accompagnant au sommeil à jouer pour qu'il en vienne à cela. Alors là, Sophie, vous allez peut-être me dire « Ah, OK, donc c'est pas vraiment une bonne idée d'utiliser un dispositif comme le Door Monkey ». Non, effectivement, je peux vous dire clairement que de notre côté, on ne préconise pas du tout ça à l'Institut Somnam. Mais ceci étant dit, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, on en vient à ça, justement. Bien sûr, en ayant décodé, en ayant identifié quelle est la source du problème ou des problèmes, on va être mieux en mesure de trouver des pistes de solutions. Donc, il peut y avoir mille et une sources. Et là, il va falloir commencer par retracer. Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Est-ce que c'est un besoin de confort, de réconfort? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Donc, on va faire un vrai portrait de situation. Ensuite, Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut encourager l'enfant à demeurer dans son lit et avoir une sorte de calendrier de récompense lorsqu'il demeure dans son lit. Comme ça, si on voit que c'est une aptitude à développer pour l'enfant, ben, on pourra le féliciter. Mais par contre, c'est pas toujours le cas. Parfois, l'enfant vient nous voir parce qu'il a fait un cauchemar. Parfois, il vient nous voir parce qu'il est inquiet de quelque chose qu'il a entendu, un bruit, ou bon, il a peur des fantômes, des voleurs, des monstres, peu importe. Alors, dans ce cas-là, là, on va prendre une autre stratégie complètement. On va essayer d'apprivoiser vraiment chacune des peurs avec lui. Et là, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Parfois, on va y aller avec le dessin. On va dessiner un monstre sur une feuille et le monstre qu'on imagine, puis on va faire un rituel pour s'en débarrasser. Ça peut, en fait, prendre toutes sortes de formes dépendant du problème. Si c'est un cauchemar, par contre, là, ça se passe à ce moment-là, il va avoir besoin d'être rassuré à ce moment-là, c'est évident. Et si on parle plutôt de réconfort, d'anxiété, de séparation, là, on va essayer effectivement de lui donner le plus de réconfort, le plus de présence possible durant la journée. Et si, par exemple, on parle plutôt du confort, mais là, on va vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose qui le réveille dans son lit? Est-ce qu'il se cogne parce que son lit est rendu trop petit? Est-ce qu'il y a toutes sortes de possibilités aussi à ce niveau-là? Alors, il faut vraiment remonter là où les sources de la difficulté pour pouvoir trouver une solution. Si, par exemple, on sent que l'enfant est capable de développer la compétence et qu'il a simplement besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, en plus du petit calendrier de récompense, on pourrait lui proposer, par exemple, de devancer ses besoins. Alors, plutôt que de lui dire « tu restes dans ta chambre, tu ne sors plus », on lui dit « bonne nuit, je laisse ta porte ouverte et je vais revenir te voir dans 5 minutes ». Donc, on peut revenir à chaque 5 minutes comme ça en devançant ses besoins. Et là, si l'enfant voit qu'on est revenu le voir avant même que, justement, il ne s'endorme, bien, il va prendre confiance. Il va savoir que son parent est là pour veiller pour lui. Et très généralement, l'enfant n'attend même pas qu'on repasse dans un autre 5 minutes plus tard. Il va s'endormir entre les deux parce que là, il va avoir compris « ah oui, je peux compter sur mon parent ». Et il va revenir, il est là, il veille sur moi. Alors ça, c'est quand même assez facile à mettre en place, puis c'est très efficace justement pour que l'enfant apprenne qu'il est en sécurité dans son espace parce que son parent continue de veiller sur lui en dehors de la chambre finalement. Parce que le parent, c'est un peu comme le capitaine du bateau. Alors, l'enfant, pour se laisser aller au sommeil dans la cabine, il doit sentir que le capitaine est toujours bien à son affaire et qu'il tient toujours le gouvernail pour le mener à bon port. Donc, ça, c'est une métaphore qu'on utilise souvent, mais c'est vraiment important. Et si l'enfant sent qu'il peut faire confiance au capitaine, déjà, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress qui va retomber. Alors, il y a cette partie-là aussi. Il y a le fait aussi que l'on veut développer une belle association avec le sommeil et non pas une mauvaise association avec le sommeil. Alors, bien sûr, si, on l'a dit tout à l'heure, hein, si on nous faisait ça nous-mêmes, on serait en colère, on serait inquiet, on serait frustré, on serait stressé. Donc, c'est la même chose pour l'enfant. Alors, on va au contraire lui montrer qu'on lui fait confiance, qu'on est fier de lui quand il arrive à rester dans son lit. Mais bien sûr, il ne faut pas l'empêcher de venir nous voir s'il y a vraiment une urgence. Alors, il y a une nuance à apporter dans tout ça. Puis, ça va dépendre du tempérament de l'enfant aussi. C'est un enfant qui a un tempérament très, très, très anxieux. Il va falloir le rassurer davantage qu'un autre enfant qui est simplement en train de manifester son mécontentement d'aller se coucher. Et là, peut-être vous vous demandez, est-ce que mon enfant fait de la manipulation? Bien, si votre enfant est en bas de 5 ans, on ne parle pas de manipulation. En fait, son cerveau n'est même pas encore rendu au stade de comprendre comment on peut manipuler. Alors, à ces âges-là, c'est vraiment parce qu'ils ont besoin de nous qu'ils viennent nous voir, soit une fois ou plusieurs fois durant la nuit. Et là, ben, quand on arrive à bien comprendre ce qui se passe, on peut trouver la meilleure solution. Parfois, ça va être aussi de mettre un petit matelas à côté du lit de l'enfant, puis de dormir quelques jours en disant qu'après ça, on se débarrasse du matelas, que c'est juste pour faire la transition. Parfois, ça va être aussi d'aller davantage dans sa chambre avec lui le jour pour qu'il crée une association positive avec la chambre. D'autres fois, en tout cas, il y a tellement de possibilités qu'il faut d'abord vraiment cerner les sources de la difficulté de votre enfant pour pouvoir vous dire ce qui serait approprié dans son cas à lui. Mais dans tous les cas, pour revenir à notre scandale du départ, on serait bien sûr de notre côté, plutôt du côté de Bianca, qui, elle, a dit que ça n'avait aucun sens de faire ça à son enfant. On est plutôt d'accord avec elle. Alors voilà, si je peux avoir fait ce grand détour pour vous donner un petit peu notre point de vue là-dessus. Bien sûr, il y a beaucoup de façons de faire quand on est parent. C'est notre responsabilité d'accompagner notre enfant dans la création de son estime de soi, de sa sécurité affective, mais aussi dans l'apprivoisement du sommeil. Ça fait partie de nos responsabilités de parents. Alors, effectivement, on ne peut pas dire mais on exerce nos responsabilités le jour et on ne les exerce pas la nuit. Ceci étant dit, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour que ça cesse assez rapidement. Donc, la première étape, ça va être vraiment d'identifier quels sont ses besoins qui se manifestent et qui ne sont pas comblés. Puis ensuite, on va pouvoir établir un plan d'action pour arriver à les combler le plus rapidement possible. Et dans tous les cas, on a, comme je vous dis, quand on cerne le bon besoin, on a vraiment des résultats assez rapides et par la suite, c'est chose du passé. Donc voilà, il faut seulement un peu de patience, de persévérance, d'être à l'écoute de son enfant, de respecter ses besoins à lui. Et en respectant ses besoins à lui, forcément, il va finir par s'apaiser. Et de ce fait, l'ensemble de la famille va pouvoir s'apaiser également. Alors, voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, Sophie, aujourd'hui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres SOS à nous lancer, à nous partager, vous êtes les bienvenus à nous les envoyer à info@somna.ca. Si vous aimez le contenu du podcast SOS Sommeil, on vous invite à nous laisser 5 étoiles. Ça nous permet de faire remonter le référencement du podcast et que plus de gens soient au courant de ce que l'on préconise en somnopédagogie. Et moi, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser sur cette note et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode d'SOS Sommeil. L'Institut Somna offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé 3 nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca.